Il y avait un besoin finalement de se réapproprier l'espace public et de se retrouver une visibilité par l'appropriation de la rue. Les gilets jaunes, c'est pas simplement le peuple ou les citoyens qui descendent dans la rue, ce sont les citoyens qui descendent dans la rue avec un gilet jaune. Et d'une certaine manière, moi je vois plutôt ça comme le signe d'une démocratie représentative qui fonctionne relativement mal.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux rencontres de Pétrarque, 33e d'Union à Montpellier dans la cour Soulages du rectorat. Deuxième journée de notre semaine consacrée au retour de la rue. Et bonsoir Jean-Bjorn Baum.
Bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous.
Alors que disent les dernières grandes mobilisations de l'état de notre démocratie? Les gilets jaunes bien sûr, phénomène politique le plus marquant de l'année en France, même si on peine à en voir la traduction dans les dernières élections européennes. Mais aussi les manifs pour la défense du climat qui marquent la prise de conscience d'une génération autour d'enjeux jusque-là traités de manière secondaire. Mais aussi, plus anciennement, le mouvement Nuit Debout, l'occupation des places. Or, si les unes et les autres n'ont sans doute pas grand-chose en commun du point de vue de leur sociologie, il est un fait remarquable. Ces mobilisations se sont développées à l'écart de ces corps intermédiaires que sont les partis politiques et les organisations syndicales. Une autonomie revendiquée pour porter notamment des projets de renouvellement de la démocratie. Démocratie radicale, locale, participative, directe, des alternatives en tout cas à la démocratie représentative. Alors s'agit-il d'un mouvement de fond, d'une remise en cause des principes même de la représentation politique ou bien d'une offre complémentaire? Et la rue est-elle devenue le lieu de substitution, ou un lieu en tout cas de substitution à la politique? Eh bien pour en discuter ce soir, trois invités. Daniel Tartakovsky, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne des mouvements sociaux, professeure honoraire de l'Université Paris 8, dont vous avez été la présidente. Parmi vos ouvrages, je citerai le dernier, L'état des tricotés, aux éditions du Détour, c'était l'an dernier, ou encore La manifestation, il va beaucoup en être question sans doute ce soir, aux presses de Sciences Po, ouvrage réédité en 2013. Pour discuter avec vous, Dominique Régnier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, vous êtes le directeur de la Fondapol, la fondation pour
l'innovation politique.
Voilà, je cherchais le mot innovation, je savais que c'est ce qui me manquait. La Fondapol qui vient de publier une enquête planétaire sur une quarantaine de pays, enquête intitulée « Démocratie sous tension ». Et puis un député pour compléter ce plateau, il s'agit de François Ruffin, bonsoir.
Bonsoir.
Député de la première circonscription de la Somme depuis 2017, vous siégez au sein du groupe de la France Insoumise. Vous êtes par ailleurs fondateur du journal Fakir à Amiens, c'était il y a 20 ans. Réalisateur, Merci Patron, Je veux du soleil, ça c'est votre dernier documentaire. Et puis un ouvrage aux éditions Les Arènes, Ce pays que tu ne connais pas. Enfin un ouvrage, il y en a d'autres, hein, mais c'est le dernier. Ce pays que tu ne connais pas, c'est Emmanuel Macron. Votre dernier film, François Ruffin, Je veux du soleil, c'est une sorte de tour de France des ronds-points pendant le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez aussi suivi de près, plus que suivi de près d'ailleurs, puisque vous en étiez un des initiateurs, le mouvement Nuit Debout, c'était en 2016. La première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez vu des points communs entre Nuit Debout et les Gilets jaunes, du point de vue notamment de la demande de renouvellement politique?
Ouais, sans doute. Bon, moi, quand il y avait Nuit Debout sur la place de la République, la question que je me posais tout le temps, mais c'est quand est-ce que ça va se passer à Flixecours, donc dans mon coin. Et c'est vrai que quand il y a eu le début du mouvement des Gilets jaunes et qu'il y avait deux barrages à Flixecours, un à l'entrée, un à la sortie, ma question c'était quand est-ce que ça va se passer place de la République. Parce que, en gros, tant qu'on n'allie pas la petite bourgeoisie culturelle, enfin qu'on appelle ça comme on veut, et les classes populaires, on n'arrivera pas à aller frapper les 1% de l'oligarchie, pour dire ça comme ça. Donc c'est vrai que je suis dans une espèce d'attente du moment où il va y avoir une jonction entre les deux. Et c'est vrai que peut-être que la question démocratique... Alors, moi, je lis le mouvement des Gilets jaunes comme une espèce de couche géologique successive. Ça part sur le prix du gasoil, c'est l'étincelle. Mais dès le 17 novembre, on est sur le social en général, sur les contrats aidés, sur les allocations adultes handicapés, sur le SMIC, sur les retraites, on est là-dessus. Et ensuite, va s'ajouter un profond sentiment d'injustice sur le plan fiscal et, enfin, la question démocratique. Et je dirais que plus le mouvement est avancé, puis il s'est orienté vers cette question démocratique avec un gilet jaune là sur lequel j'ai vu inscrit faire l'amour une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie sexuelle. Voter une fois tous les 5 ans, ce n'est pas une vie démocratique.
Voilà, je rappelle que vous êtes élu député pour 5 ans, donc jusqu'en 2022, a priori.
Alors je me tourne vers Daniel Tartakovsky, bonsoir. En introduction, Hervé Gardette disait que le mouvement des Gilets jaunes notamment s'était déployé à l'écart des partis et des syndicats. Vous justement, vous avez écrit de nombreux livres importants sur la façon, sur la manifestation ouvrière, sur l'inscription des manifestations dans la rue, dans le mouvement ouvrier, ce qu'on appelle longtemps le mouvement ouvrier. Aujourd'hui, l'expression est devenue assez presque étrangère. Comment est-ce que vous avez perçu l'inscription ou la non-inscription des Gilets jaunes dans cette histoire? Vous savez que je me souviens, au tournant des années 2000, il y avait ce qu'on appelait le mouvement altermondialiste, et déjà on se demandait, c'est-à-dire ce mouvement qui essayait de créer, qui disait on va créer un autre monde, il faut changer le monde, un autre monde est possible. Et le mouvement altermondialiste, déjà on disait, mais est-ce que ça a à voir, ça se déploie à l'écart des syndicats, à l'écart des vieux partis? C'était pareil pour le mouvement des sans-papiers, des sans-emploi, des sans-domicile, etc. À chaque fois, on se demande quel est le lien avec le vieux, la vieille histoire ouvrière. Et en même temps, à chaque fois, on disait, mais si, ça a été préparé. Le mouvement des 100, les coordinations, les AG souveraines, les assemblées générales souveraines, on voyait que toutes les formes de ces mouvements-là avaient été préparées par le vieux mouvement ouvrier, syndical, etc., en 1995 et également en 1968, par exemple. Est-ce que vous, vous considérez que le mouvement des Gilets jaunes, lui aussi, s'inscrit dans cette continuité, ou est-ce qu'au contraire, il fait symptôme d'une décomposition du vieux mouvement ouvrier?
Le terme de décomposition me dérange un petit peu. Le mouvement ouvrier et les manifestations qui n'étaient pas seulement ouvrières, elles se sont développées dans un système politique, et je ne mets aucun caractère péjoratif dans l'usage du mot politique, qui articulait un état social et des acteurs qui avaient contribué à construire cet état social. Je rappelle que quand se construit l'état social à la Libération, il s'appelle véritable démocratie économique et sociale. C'est important parce que les mots importants, c'est véritable, économique et social, bien sûr. Et si la démocratie, c'est une véritable démocratie économique et sociale, ça veut dire que ça redéfinit complètement la citoyenneté. Et on a vécu pendant des années avec une redéfinition de la citoyenneté dans le cadre de cet état-là. Ça, être citoyen, c'était pas seulement voter tous les 5 ans, effectivement, c'était participer à l'ensemble des structures qui étaient l'expression de l'état social et qui permettaient des conquêtes sociales. Et puis tout ça a été mis à mal. Tout ça a été mis à mal. Ça s'amorce, s'agissant de la France, en 82. Et à partir de là, on a ce que mon collègue Michel Margueras et moi avons appelé un détricotage, non pas de l'État, mais de l'État social. Et je crois qu'on est confronté, finalement, à un détricotage des mouvements sociaux. Le problème n'est pas un problème de syndicats qui ne seraient plus capables, qui ne seraient plus en mesure, qui ne seraient plus, etc., etc. Le problème est que les espaces traditionnels de la démocratie sociale qui a existé dans ce pays ont été mis à mal, et qu'à partir de là, il y a une redéfinition du politique qui est effectivement, et de ses acteurs, qui est à naître.
Dominique Régnier, c'est parce que ces espaces de la démocratie sociale ont été mis à mal que ces mouvements, selon vous, et en particulier celui des Gilets jaunes, se sont développés de cette manière. Espace de la démocratie sociale, espace de la démocratie représentative également.
D'abord, il faut dire que notre vie sexuelle démocratique est beaucoup plus intense qu'il n'a été dit, puisque entre la présidentielle qui a eu lieu et la suivante, on aura voté 7 fois. Il faut quand même le rappeler, on peut s'abstenir, hein, mais on aura voté 7 fois si on fait son travail de citoyen, sans compter les élections sociales qui augmentent l'intensité de notre activité si on veut adhérer à un syndicat et participer à la vie sociale du pays.
L'abstinence et l'abstention étant pas exactement la même chose.
Voilà. Mais il faut faire attention de ne pas sauter par-dessus ces scrutins qui comptent. Il n'y a pas que l'élection présidentielle en France, surtout quand on cherche de la démocratie. En dehors de cette grande réunion importante, bien sûr, pour désigner le chef de l'État, il y a beaucoup d'élections et en général, on y participe. Il y a sans doute, oui, une relation entre la crise de ces institutions et de ces instances de représentation et les Gilets jaunes. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, je ne sais pas si ce sentiment a été partagé, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la radicalité dans la forme, c'est-à-dire une sorte de spontanéisme, en quelque sorte, que pour ma part, je crois que je n'avais jamais observé dans l'histoire récente de la vie sociale. Je ne sais pas ce qu'en pense Daniel Tartakovsky, parce que elle travaille beaucoup sur les manifestations. Je le fais aussi, d'ailleurs, parce que je dis au passage, mon travail de chercheur a porté sur l'espace public et son émergence à la fin du 19e siècle, notamment la circonscription de la forme manifestante. Et je ne crois pas qu'il y ait une, un événement comparable en termes de spontanisme. Au fond, les gilets jaunes sont apparus. On sait, on a évoqué les réseaux sociaux, on a évoqué les ronds-points, mais on n'a peut-être pas assez évoqué leur refus systématique et forcené, et très intéressant, d'être représenté, de déléguer des représentants, et même d'avoir un programme commun, même d'avoir un programme constitué, d'avoir une organisation qui les représente ou qui les ordonne, cette espèce de radicalité dans le refus de la représentation, comme s'ils pressentaient l'inévitable trahison, l'inévitable déviation par rapport à l'intensité du mouvement dans son origine première, en effet déclenchée, je le crois aussi, par l'affaire de la taxe carbone, mais aussi l'affaire des 80 km/h, qui, au fond, renvoyait à une sorte de réglementation descendue depuis Paris, tombant sur la généralité des citoyens, sans discussion, sans beaucoup de détails. Et ce sont, au fond, les deux formes de gouvernement qui ont suscité un rejet massif. Mais le rejet, il est autant des formes syndicales et partisanes, il est autant de la forme représentative. C'est pas forcément, d'ailleurs, le signe d'une vitalité démocratique, mais c'est un... je pense, soit une remise en question qui me frappe beaucoup. Je termine en disant qu'il a été paradoxal de constater que les gilets jaunes, qui ont été interprétés comme une invitation à de l'hyperdémocratisme, ont été représentés, alors qu'ils ne le voulaient pas, par des représentants que personne n'avait élus, surtout pas les gilets jaunes, et qui, au fond, avaient émergé un peu par les réseaux sociaux et beaucoup par les journalistes qui avaient décidé d'inviter ceux-là et pas d'autres. Donc, finalement... On s'est retrouvé avec une forme assez étrange où les représentants étaient en quelque sorte entre l'auto-institution et la désignation par le système médiatique, presque à l'opposé de l'invitation à l'hyperdémocratisme portée par les Gilets jaunes, je crois, tout au long de leur mouvement.
Ce qui pose évidemment des problèmes quand on est journaliste, parce qu'il aurait fallu inviter tous ceux qui Bien se sûr. Réclamaient des Gilets jaunes, ce qui est évidemment physiquement impossible. François Ruffin, ce refus de la représentation et cette méfiance, peut-être même à l'égard du principe de la représentation, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté en fréquentant, à l'automne dernier, un certain nombre de ronds-points occupés par les Gilets jaunes ?
Moi, je m'attendais à être mal accueilli. Voilà, d'abord parce que je suis député et ensuite parce que on venait avec une caméra collée au derrière. Donc et en revanche, partout on a été bien accueillis avec un souci de un désir de discrétion. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il naît aussi d'une crise d'irreprésentativité. Moi d'abord, c'est ce qui m'a intéressé. Je veux dire, ça fait 20 ans que dans mon coin, je croise des gens dans leur appartement qui me disent leur honte d'avoir un frigo trop vide, de pas pouvoir mettre leur enfant en centre de vacances, encore moins partir en vacances, et qui le font en chuchotant. Et là, ce sont des gens qui sont invisibles. Et qui veulent pas être visibles dans le journal, qui veulent pas, il n'est pas question de prendre des photos, il faut changer les prénoms et tout ça. Et le 17 novembre, c'est le moment où ces invisibles deviennent hyper visibles. Donc, ils deviennent représentants, ils se représentent eux-mêmes en enfilant le gilet jaune. Et je dis, moi, c'est le moment où on passe de la honte privée à la colère publique, c'est le moment où on passe du silence à la parole. Donc c'est quand même un moment qui est particulièrement intéressant. Et ça fait écho à une irreprésentation de toute cette France-là. Irreprésentation dans les médias. On avait fait un petit sondage il y a quelques années, quand Mermet avait été viré de France Inter, on avait regardé, il y avait 1,7% du temps d'antenne qui était... dédié aux classes populaires sur l'antenne de France Inter en une journée. 1,7%, 6 minutes. C'est rien. Alors qu'il y en avait largement plus pour les économistes, pour les sociologues, pour les chercheurs, mais aussi pour les chefs d'entreprise, bon, et ainsi de suite. Et je vois la même irreprésentation à l'Assemblée nationale. On doit être 1,2% de personnes d'origine ouvrière à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire une personne, quoi, en gros. Donc, bon, là, il y a un gros problème d'irreprésentation, ce qui produit une immense méfiance entre le monde des représentants et des représentés qui se reconnaissent pas du tout dans le miroir. Et je prétends pas être davantage représentatif de ça. Simplement, j'ai peut-être davantage conscience du fossé qu'il y a entre les classes populaires et ce qui est supposé être leur représentation. Et par ailleurs, moi, je crois que ce mouvement, il est habité d'un très fort désir démocratique, parce que ce qui habite les gens aujourd'hui, c'est un sentiment d'impuissance. Vous savez, tout à l'heure, là on parle des gilets jaunes, mais tout à l'heure j'étais, en descendant de la gare, je rencontre des gens de Youth for Climate. Leur question c'est, comment on peut faire quelque chose? On a le sentiment de rien pouvoir faire, d'être impuissant face à l'état du monde et tout ça. Donc on fait une manif pour commencer, mais on sent bien que ça va pas marcher. C'est pas que ça, comme ça que ça marche. Donc voilà, je crois que la grande question aujourd'hui, c'est comment on reprend en main un petit bout de notre destin commun. Et là, les Gilets jaunes, ils ont tenté les ronds-points, ils ont tenté autre chose, mais je crois que c'est un spectre qui nous hante, c'est comment on fait pour même une petite parcelle de notre désir commun. Mais pour l'instant, on n'y est pas, quoi.
Je précise juste, Youth for Climate, c'est une organisation de jeunesse qui se mobilise contre le réchauffement climatique. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette organisation.
François Ruffin, si on devait faire le lien entre ce que vous venez de dire et la question de la rue, parce que c'est la rue qui nous occupe tout au long de cette semaine, la rue au sens le plus concret du terme. Vous savez que dans les historiens du mouvement ouvrier, Daniel Tartakovsky, mais aussi quelqu'un comme Michel Perrault, qui a beaucoup travaillé sur les manifestations, sur les barricades, etc., ces gens qui disent toujours que chaque mouvement révolutionnaire est un moment où, on en parlait hier déjà, le peuple veut se réapproprier une rue dont il a l'impression d'avoir été chassé. Michel Perrault a cette phrase très belle à propos du 19e siècle. Elle dit « Ce peuple du 19e siècle a très fort le sentiment que l'espace lui appartient. » Et elle ajoute « Chassé de la rue, ces gens y reviennent en nombre lors des périodes révolutionnaires. » Est-ce que vous avez eu l'impression que dans cette quête de renouveau démocratique et d'inventivité démocratique, il y avait aussi cet aspect très concret et urbain de reconquête de la ville par la ville elle-même?
Je voudrais dire une chose sur le titre. Substitution de la rue aux politiques. Ça supposerait que la politique ne soit pas dans la rue. Or moi, je crois que dans notre histoire, foncièrement, en tout cas, la rue est un lieu politique. Alors vous avez parlé, vous dire notre fête nationale, c'est le 14 juillet 1789. C'est quand même la rue. Donc si c'est pas, si la politique est pas dans la rue, où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est seulement les représentants à l'Assemblée nationale qui souvent votent de manière automatique et pléthorique? Est-ce que c'est ça l'animation de la démocratie? On a un gros problème de ce côté-là. Donc je pense que on peut pas poser la question en disant la rue comme substitution aux politiques. La rue c'est du politique. Enfin, pour moi. Là où c'était le plus visible dans le mouvement des Gilets jaunes, dans la réappropriation de la rue, c'est évidemment le choix que n'aurait osé aucune organisation syndicale d'aller sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire d'aller dans les quartiers riches et de se dire c'est là qu'est le pouvoir et c'est là, on y va. On reste pas cantonné dans notre coin. Et donc je pense qu'il y a la réappropriation, la rue, sans doute, à flic secours, avec le sentiment aussi, je pense, que aujourd'hui le capital, c'est la mobilité. Et qu'est-ce qu'on nous demande en permanence? On nous demande d'accélérer les flux. Que demandent Zuckerberg et Emmanuel Macron de concert? C'est d'accélérer les flux. Ça va être le CETA, ça va être le Mercosur, qui sont aussi des prises de notre démocratie. Hein. Mais c'est d'accélérer les flux au niveau mondial, de les accélérer au niveau européen, autant sur le plan du capital que des marchandises. Que sont venus faire les manifestants? Ils sont venus arrêter les flux ou ralentir les flux. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est la reprise en main des lieux de pouvoir qu'on nous disait interdits. Et donc, ça signifie quelque chose sur le terrain de la reprise en main de notre démocratie quand on vient manifester là où se trouvent les lieux de pouvoir et qu'on refuse de se cantonner aux arrondissements qui sont sans pouvoir.
Alors, c'est toujours intéressant d'essayer de détricoter un petit peu les titres qu'on choisit pour ces tables rondes, puisque ça fait partie aussi du jeu. Vous disiez, François Ruffin, donc la rue comme lieu de substitution aux politiques. Ben non, la rue est politique. Est-ce que c'est pas parce qu'on le redécouvre aussi, peut-être, à intervalles plus ou moins réguliers, Daniel Tartakovsky, qu'on en vient presque à s'en étonner?
Ben, il y a un problème de mots. Les mouvements de la rue, c'était le 19e siècle, c'était la Révolution. Oui, je suis d'accord, hein, la rue, évidemment, est politique. Et la rue, elle s'est construite dans notre histoire comme un sujet politique, un sujet un peu fantasmatique, on lui met une majuscule. Et puis, une fois la République advenue, quelque part dans les années 80, cette rue, sujet de l'histoire, elle a laissé la place à des manifestations de rue. On est passé d'un sujet politique à une rue espace, effectivement, un lieu du politique. Et ce qui est intéressant dans notre histoire, c'est que une fois la République advenue, je crois effectivement que la rue, les manifestations de rue, puisqu'on ne disait plus la rue, on disait les manifestations de rue, se sont perpétuées comme un lieu du politique. Moi, je dirais mobilisation collective, parce que j'y intègre évidemment la grève dans son articulation au cortège et à la manifestation. J'y intègre la résistance en tant qu'elle a été un mouvement social et collectif. Et finalement, notre état social de 44-45, il est né, et c'est une spécificité française, il est né d'une double révolution de la culture de mobilisation et de la culture de régulation. Ça n'a pas été concédé par en haut, hein, ce n'était pas le New Deal. Ça a été une conquête. Ça a été une conquête, et c'est parce que ça a été une conquête que c'était un peu plus compliqué qu'ailleurs de le détricoter. Bon, il ne reste plus grand-chose, hein. Mais ça a pris plus longtemps qu'ailleurs parce que la résistance à cet État démocratique et social, fruit de la rue en tant qu'elle désigne la mobilisation collective, était quelque chose d'extrêmement fort dans ce pays. La lutte paye.
Et pourquoi ça ne paye plus ?
Alors, pourquoi ça ne paye plus ?
Apparemment, ça semble ne plus payer.
Ça ne paye plus pour des raisons que nous connaissons tous. Hein, je veux dire, ce renversement de cycle qui advient quelque part au milieu des années 70 et qui se manifeste en France un peu plus tardivement en 82, avec une transformation radicale du procès de travail, du salariat, de la précarisation, le chômage, enfin tout ce qu'on connaît et qui fait que les luttes sont difficiles. Un mot intéressant, 95, la grève par procuration. C'était la manif qu'on désignait par grève par procuration. Il y avait un basculement qui s'opérait. Et jusque, si vous voulez, moi, je distinguerais trois temps, mais restons sur le très contemporain. De 1983 à 2003, on a eu dans ce pays une dizaine de mobilisations collectives, dans la rue, peut-être pas de la rue, mais dans la rue, il y avait des organisations, défensives, certes, plan Juppé, hein, et qui l'emportait. Et puis brusquement, 2003, Raffarin, ce n'est pas la rue qui gouverne. Et il y a un renversement. Il ne suffit pas de le dire. Pourquoi est-ce que ce renversement se perd ? Il y a 2006 qui vient brouiller un peu ma chronologie, mais je n'ai pas le temps de développer. Pourquoi est-ce que ça marche ? Ben, je crois qu'un des éléments très forts, c'est la réforme constitutionnelle et l'inversion du calendrier électoral, un renforcement de l'exécutif. Il n'y a plus de contradictions majeures au sein de l'exécutif. C'est beaucoup plus facile pour un mouvement collectif de l'emporter quand il y a des contradictions sous la forme de la cohabitation. On joue sur les contradictions. Quand il n'y a plus de contradictions, c'est plus compliqué, et donc ils tiennent. Et ils tiennent quel qu'en soit le prix. Et je crois que ça contribue à ces nouveaux mouvements. Effectivement, depuis 2003, je mets de côté 2006, échec. Des mouvements défensifs et qui perdent. Et qui perdent à droite ou à gauche, hein, que ce soit la manif pour tous ou que ce soit les retraites. Il y en a pour tout le monde. Ayons conscience que pendant une vingtaine d'années, dans ce pays, la manifestation de rue a fonctionné comme un référendum d'initiative populaire que nul n'avait décrété. Et puis d'un seul coup, on dit on ne joue plus. Et les manifestants, ils ne comprennent pas. Et on est encore plus nombreux que la dernière fois, et pourquoi ça ne marche plus ? Bon. Et donc il y a bien un renversement. Et ce renversement, je m'arrête là. Épreuve du concours général à l'ENA 2002, donc un an avant 2003, quel était le sujet ? Le pouvoir de la rue.
Alors c'est intéressant parce que 2003, ce n'est pas la rue qui gouverne, Raffarin. En fait, vous, Dominique Régnier, vous avez fait allusion à vos travaux de chercheur en sciences politiques, en droit aussi, sur l'opinion publique. Et dans un livre qui s'appelle « Le triomphe de l'opinion publique », qui était paru chez Odile Jacob, vous faisiez remonter cette terreur du gouvernement de la rue au XVIe siècle et aussi au balbutiement de l'économie capitaliste, en disant que finalement, depuis toujours, les dominants ou les gouvernants sont terrorisés à l'idée que, quelque part, l'opinion publique puisse devenir justement se faire mouvement de foule et que la rue envahisse le politique.
Oui, si on fait une généalogie, ça ne peut pas être surprenant d'ailleurs. Le gouverner, c'est tenir la multitude. Je ne crois pas d'ailleurs que ça puisse changer, mais ça c'est autre chose. Gouverner, c'est tenir la multitude. Donc on a créé des ordres qui encastrent la multitude. Et on a notamment, parce que quand on dit ici en particulier, comme on pourrait le dire dans d'autres villes de France, hein, quand on cite presque systématiquement des manifestations qui ont eu lieu à Paris, on voit à quel point on a été encastré dans un référent national qui n'est que celui d'une ville. En réalité, lors du 14 juillet 1789, dans une région comme celle-là, en bien des endroits, on ne parle même pas la même langue. Et donc dire que 14 juillet 1789, c'est la rue qui manifeste comme si elle était à l'unisson de toutes ces populations, de tous ces peuples qui font à ce moment-là une sorte de peuple encore à faire plutôt qu'il n'est fait, Il a fallu, et ça a commencé au XVIe siècle, et un peu avant sans doute, mais il a fallu, c'est un vieux problème, ça, hein, on trouve ça dans l'Antiquité, c'est un vieux problème. Mais il a fallu encastrer cette multitude dans un espace national qui n'existait pas. Il a fallu ensuite politiser cet espace national qui ne l'était pas, et faire rentrer là-dedans des formes sociales qui étaient très différentes. La rue est un lieu politique, évidemment, mais aussi les champs. Vous parlez de la résistance, donc le maquis est un lieu politique. Ce sont des espaces très différents. Ils ont été politisés, ils font l'objet d'une politisation. Mais considérer ou laisser penser que la rue serait un lieu de politisation par excellence, je crois que c'est une vision biaisée qui met l'accent sur une certaine partie de la société, qui oublie qu'il y a tout un autre monde qui n'est pas parisien, qui habite même pas des grandes villes. Et qui peut se retrouver. Il y a eu des révoltes paysannes sans avoir la rue. Hein. Il y a eu beaucoup de mouvements paysans, on le sait. Ça. D'ailleurs, les mouvements paysans ont commencé entre le XVIe et le XVIIe siècle, ont anticipé les révolutions politiques comme la Révolution française.
Mais donc, Dominique Régnier, avec les Gilets jaunes, on est justement dans le phénomène inverse. C'est-à-dire ça n'est pas une mobilisation qui est une mobilisation parisienne. Ça a essaimé un peu partout et dans des endroits qu'on n'imaginait pas peut-être justement susciter cette mobilisation, que sont les ronds-points.
Oui, c'est pour ça que, de certaine manière, moi je dirais que l'échec des Gilets jaunes, c'est d'avoir été, mais ça c'est l'efficacité du système qui a été construit, c'est d'avoir été obligé d'aller sur les Champs-Élysées. Je trouve que c'est plutôt la marque d'un échec parce qu'on n'arrive pas à se réapproprier l'ensemble du territoire. Les Gilets jaunes, au fond, c'est ça aussi qui rendait la chose passionnante, sont le retour d'une sorte de pensée politique, je crois, moi, dominante et structurante. Si je veux, là, je veux être schématique nécessairement, mais le travail législatif qui a été fait, et avant cela le travail de la monarchie absolue, considérer que l'attroupement, c'est l'anomalie. Et une société bien ordonnée est une société sans attroupement. Où, au fond, on passe, moi je crois, de la place publique concrète à l'espace public un peu métaphorique, et des corps qui sont dans la rue, aux opinions qui expriment un point de vue. Et c'est une forme de pacification, en même temps que c'est une forme de mise en ordre public. Et le statut très particulier de la manifestation montre la crainte toujours permanente à l'égard de ce retour des corps physiques dans la place publique concrète, quelque chose qu'on ne sait pas bien gouverner, qui est toujours la marque du retour d'une forme, de tension extrême, possiblement révolutionnaire. Mais on ne peut pas réduire l'ensemble de l'histoire, par exemple, du peuple français, on va le dire comme ça, on ne peut pas la réduire à des mouvements de rue, et encore moins des mouvements de rue parisiens, qui sont très particuliers, même si l'histoire nationale, on l'a tous appris à l'école, est une histoire arrimée à la référence parisienne, la Révolution, la Commune, mai 68, alors que partout ailleurs, et les historiens locaux le savent, il y a eu des formes qui ont correspondu ou qui n'ont pas correspondu, des rythmes comparables ou différents, mais ils sont complètement écrasés par une histoire qui a été, en gros, structurée autour de ce référent, un, la rue, deux, Paris, dans un pays comme la France, c'est un peu réducteur.
François Ruffin.
Sure.
Sur ce que vient de dire Dominique Régnier, sur notamment cette phrase, moi j'ai noté « gouverner, c'est tenir la multitude oui. ». Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase,
ça
vous qui gouvernez?
Ça me rappelle une phrase de Samuel Huntington, donc, l'homme qui a écrit le choc des civilisations, mais bien antérieur, au milieu des années 70, la commission trilatérale, qui réunit donc les élites japonaises, américaines et européennes, lui commande un rapport sur la démocratie. Il dit « voilà, on est dans l'après-68 ». Sans doute qu'il y a un peu trop de rues. Et il dit, on a un souci aujourd'hui, c'est que les gouvernants ont du mal à gouverner parce que les gens prennent la démocratie au sérieux. Donc, les dirigeants peinent à diriger. Ce qu'il nous faut, et là, les trois mots sont tels quels inscrits dans le rapport, c'est instaurer de l'apathie politique. Et c'est ce qui s'est opéré au fil des décennies suivantes, c'est une déprise de la démocratie sur les conditions d'existence des gens. Ils ont perdu le fil, alors par différents biais, par les accords de libre-échange, par le putsch légitime, je reprends la même mot de Christophe Barbier, de l'Union européenne, par l'hyper-présidentialisation qui était déjà hyper-présidentielle de la Ve République. Bon, il y a toute une série de choses comme ça. Moi, je reviens sur un autre point du propos, c'est le rôle de Paris. Je vois, moi, une inversion de notre histoire révolutionnaire. Moi, évidemment, le 17 novembre, je fais le tour des ronds-points de ma circonscription. Je suis à Flixecourt, je l'ai dit, je suis à Camon, j'aime bien les noms de villes comme ça. Je vais à Abbeville, je vais à Longo, je vais à Glizy. Il y a des blocages partout. Devant le carrefour d'Amiens Nord, il y a des blocages partout. À 18h, j'allume ma radio, France Inter, et boum, sur quoi je tombe?
France Culture.
C'est heure au pont de l'Alma à Paris. C'est-à-dire que même quand c'est quelque chose qui est hyper répandu en province, et ben boum, la focale, elle est quand même sur qu'est-ce qui se passe à Paris. Et moi, je voudrais, bon, donc je considère normal du coup que le réflexe soit en effet d'essayer de faire monter du monde de province vers Paris. Une chose comme ça, un petit détail, quand on lit le bouquin de Éric Vuillard sur le 14 juillet, on voit la liste des noms des gens qui ont participé au 14 juillet, et on voit leur origine aussi, de quel coin ils venaient, du Limousin, de l'Auvergne, de l'Ardèche et tout ça. Et en fait, c'était essentiellement des étrangers à Paris qui ont fait le 14 juillet et qui ont pris la Bastille ce jour-là. Mais moi, je vois une inversion de notre histoire révolutionnaire. C'est-à-dire que Paris a été le grand creuset qui soufflait un vent de liberté et de révolution sur une province qui parfois s'en protégeait et parfois brûlait les châteaux, type la Grande Peur. Et aujourd'hui, on a une inversion de cette histoire-là. C'est-à-dire que Paris est devenue la grande protectrice du pouvoir. Pourquoi ? Parce que il y a une gentrification de Paris qui fait que les classes populaires en sont désormais absentes, elles en sont éloignées, et les jacqueries ou les révoltes se déroulent aujourd'hui souvent loin de Paris, ou alors il faut qu'elles y soient importées. Mais là, on a comme un cocon protecteur du pouvoir, Paris construit comme un cocon protecteur pour moi aujourd'hui autour du pouvoir.
Alors, puisque vous parlez de Paris, récemment on a beaucoup parlé de Notre-Dame de Paris, puisqu'on est toujours dans le point un peu historique, je voudrais parler juste évoquer le point presque spirituel du rapport à la rue. Et ça intéresse aussi bien Daniel Tartakovsky que François Ruffin. Daniel Tartakovsky, qui a dans ses livres et dans ses articles, a beaucoup insisté sur le fait que si on veut remonter dans l'histoire, etc., mais il faut aussi voir le soubassement religieux. Vous expliquez, Daniel Tartakovsky, que finalement, les grandes scènes décrites dans les religions du livre, elles disent qu'on se construit en marchant, hein, l'Exode, l'Égypte, etc. Et donc, il y a fondamentalement dans la manifestation une dimension de procession. Et ce qui m'intéresse chez vous, François Ruffin, c'est que ça doit vous parler, cette idée-là, puisque vous avez publié avec Monseigneur Olivier Le Borgne, évêque du diocèse d'Amiens, un petit livre qui s'appelle « Paix intérieure et paix sociale ». Et dedans, il y a tout un tas de petites révélations comme ça. Vous dites
révélation, c'est le mot, je crois.
De révélation, c'est le mot. Vous dites que dans votre journal Fakir, le rôle des chrétiens de gauche est très important. Vous parlez du fait que vous évoquez Jésus, ce que vous appelez le mythe de Jésus auprès de vos enfants. Vous rappelez d'ailleurs que vous étiez dans le même collège, lycée La Providence qu'Emmanuel Macron, tenu par les jésuites. Et puis vous parlez de votre rôle politique comme d'un rôle spirituel. Est-ce que pour vous, ce que vous avez vécu là politiquement avec les Gilets jaunes, ces processions, en tout cas ces manifestations, ces marches, ont confirmé ce que vous considérez comme un rôle spirituel, dans la lignée de ce que Tartakovsky explique de la manifestation-procession.
Moi, je peux partir. Enfin, c'est pas dans les manifestations que je me suis le plus retrouvé. C'est plutôt, par contre, un truc de communion, puisqu'il faut maintenir le vocabulaire religieux. C'est plutôt un truc de communion. Vous arrivez le soir autour d'un rond-point, il y a encore 4-5 personnes qui continuent à se réchauffer les mains sur un brasero, et vous discutez avec elles, et il y a la vie qui défile. Donc voilà, c'est ça. Et donc là, et je me sens, en plus, dans un moment où quand même il y a eu une... on a voulu donner une image complètement négative de ce mouvement et de ces hommes qui étaient déjà, qui vivaient des vies difficiles.
Et de ces femmes aussi.
Et de ces femmes, oui, beaucoup de femmes d'ailleurs, oui, qui vivaient déjà des vies difficiles. Et au moment où ils se décident à se redresser, on veut leur faire courber les chines, sur le plan de l'image publique au moins, en les faisant comme des fascistes, des antisémites, et ainsi de suite. Et donc à ce moment-là, oui, je considère que j'ai un rôle spirituel, entre guillemets, de venir porter autre chose. Et on n'est pas là, d'ailleurs, Le terrain revendicatif, il déborde très largement le désir matériel. Il y a un désir matériel. Vous savez, quand vous peinez à vivre, il est évident que vous demandez le relèvement du SMIC, le relèvement de l'allocation adulte handicapé. Mais foncièrement, la question qui émerge là, c'est la question du sens de l'existence. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble ? C'est quel peut être notre destin commun, comment on peut mieux vivre, mais pas seulement sur le terrain matériel, mais vraiment quel est le sens de notre existence. Et donc à ce moment-là, vous vous retrouvez en effet embarqué dans des discussions qui sont vastes. Et d'ailleurs, il y a eu quelques prêtres qui sont venus se mêler. Il y a des messes qui ont été célébrées le 24 décembre, soir de Noël, sur quelques ronds-points.
Dominique Régnier, nous évoquions au début de cette discussion cette vaste enquête mondiale de la Fondapol, intitulée « Démocratie sous tension », plus d'une quarantaine de pays, d'États démocratiques. Est-ce que vous avez globalement retrouvé ce que l'on est en train de décrire en France, de cette défiance peut-être à l'égard de la représentation, de ces attentes qui sont importantes dans la plupart des démocraties? Est-ce qu'on pourrait dire que ce qu'on appelle cette crise de la démocratie représentative, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs quelle est son ampleur, mais que c'est une crise qui est globale?
Alors, ces 42 pays, je signale que vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site de la Fondation. Ce ne sont pas les enquêtes que nous vendons, elles sont disponibles. On a interrogé 37 000 personnes en 33 langues différentes. Donc, c'est un panorama très vaste. Et évidemment, il y a des différences par pays. Je vous rassure, je ne vais pas les évoquer. Mais globalement, pour répondre à votre question, il y a d'abord un très fort attachement aux principes, aux mécanismes, aux institutions démocratiques, y compris la manifestation que nous avons testée et qui suscite une approbation massive, l'attachement à cette forme d'expression. Ensuite, on mesure cette même défiance qui est souvent évoquée en France, on la mesure partout. Défiance à l'égard des syndicats, des partis, du Parlement national, du gouvernement national, des médias. Les niveaux varient, mais partout, c'est une défiance qui est très forte. Donc il y a une vraie interrogation. D'un côté, attachement aux principes, de l'autre, défiance à l'égard des institutions qui sont censées, en gros, les faire vivre. Et puis une forme d'impatience qui, moi, m'a beaucoup impressionné. Je ne m'attendais pas à un résultat particulier en ce sens. Une forme d'impatience, je dirais, pour résumer, en ce qui concerne la capacité des États démocratiques, leur capacité à délivrer un résultat pratique qui correspond aux préférences exprimées électoralement. En gros, on joue le jeu. On fait savoir quelles sont nos préférences et on n'arrive pas à saisir ensuite la réalisation de ces préférences dans les actes publics de gouvernement. Et le début, à cause de cela, je crois, d'une, ce que j'appelle moi, une déconsolidation de la culture démocratique, qui m'impressionne sur deux plans, que je dis encore une fois très vite, mais chez les moins de 35 ans, c'est très impressionnant de voir, et c'est la deuxième fois que nous le mesurons en deux ans, un recul là très sérieux de l'attachement aux valeurs et aux principes démocratiques, chez ceux-là, donc il y a une tendance à la déconsolidation démocratique, chez les femmes aussi. Donc il y a un gender gap, il y a une différence entre les hommes et les femmes étant en quelque sorte plus opposées, plus critiques, plus déçues, plus exaspérées, si je puis dire, à l'égard des dysfonctionnements ou de l'incapacité des États démocratiques. C'est très net, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça explique d'ailleurs en partie la progression au niveau de populistes parmi les électrices, qui est une des dernières tendances qui fait aussi augmenter ces partis, la question des jeunes. Je vous donne un exemple parmi d'autres. On a posé une question, est-ce que vous pensez qu'il faut que tout le monde puisse voter ou seulement ceux qui ont un minimum de connaissances? Oui, c'est une question un peu rude. On en a plusieurs comme ça. 18 ans et plus sur l'ensemble des personnes interrogées des 42 pays. 38% nous disent qu'il faudrait réserver le droit de vote à ceux qui savent un minimum de choses. On peut supposer que généralement on s'exclut soi-même de l'incapacité ou de l'incompétence. Donc c'est une disponibilité à priver les autres d'un droit de voter. Chez les moins de 35 ans, le chiffre est de 48%. Donc on a en gros 1 sur 2 chez les moins de 35 ans qui considèrent qu'il faudrait revoir le pouvoir de voter et en réserver l'expression ou l'usage à ceux qui savent un minimum de choses. Ce sont des signes qui montrent, et je termine là-dessus, parce que moi je tiens beaucoup à dire cela, il y a des tensions autoritaires qui sont très fortes, chacun le sait, il y a des mouvements, des soubassements autoritaires qui sont en train de travailler, Trump n'est pas une exception ni un accident, et en Europe nous avons nos exceptions et nos accidents, mais à force de les répéter, ça devient une tendance, et de ce point de vue-là, pour recoller avec la rue, la rue est aussi un espace pour la violence et la tyrannie. Ça n'est pas en soi un espace bienveillant et positif. Il y a aussi des ligues factieuses, il y a aussi le 6 février 34, il y a aussi la nuit de cristal, qui sont des phénomènes de rue. La rue n'est pas en soi-même productrice de bienveillance, de bénéfices, de progrès, de respect de l'autre. C'est aussi possiblement le contraire. Nous sommes dans une séquence historique où la rue peut avoir ce double rôle, ou bien un rôle très positif, ou bien un rôle très négatif. Le surgissement de la violence est un des facteurs physiques, est un des facteurs qui fait basculer dans un sens ou dans l'autre.
Daniel Tartakovsky, si vous voulez réagir.
Oui, deux choses. Sur la dimension religieuse, moi j'évoquerais Kant, qui, parlant de la Révolution française, parlait de l'enthousiasme. On était dans un autre registre. Et il désignait par là la disposition morale de l'humanité, un progrès de l'histoire. Mais d'une certaine manière, c'était une traduction des Lumières, de ce soubassement de la volonté d'aller de l'avant, de se transformer. Chacun, évidemment, en fonction de ses croyances, ne le dira pas de la même manière. Ce qui me frappe dans les nouveaux mouvements, enfin dans les mouvements dont nous parlons depuis une demi-heure maintenant, c'est que, précisément, on ne marche plus nécessairement. Il y a la dimension occupation d'un territoire, même si les Gilets jaunes, ça a été à la fois les ronds-points et les Champs-Élysées, mais finalement, ce qui était intéressant, c'était les ronds-points. Ce qui était nouveau et ce qui me paraît le plus intéressant, qu'on prenne les ZAD, les ronds-points ou Nuit Debout. Tout ça n'est pas comparable, c'est pas la même sociologie, c'est pas comparable, mais on s'installe. Et à une échelle plus globale, c'est ce qu'on appelait les encampantes, le mouvement des places s'agissant de l'Afrique du Nord, mais plus globalement, les mouvements des indignés, de Occupy, etc. J'avais vu un film sur la Puerta del Sol. Les manifestants scandaient « Oi, oi » aujourd'hui. C'était des entretiens. Enfin, le cinéaste filmait les discussions sur la Puerta del Sol. Et il y avait une manifestante dont, après le « Oi, oi », elle disait « Parler d'avenir, c'est parler de la mort ». Donc, il me semble que dans ces mouvements qui participent de cet enthousiasme dont parle Kant, me semble-t-il, et qui, de ce point de vue, du point de vue individuel, me paraissent effectivement des lieux de politisation et de retour à une citoyenneté, en fait, la volonté d'affirmer une citoyenneté, on est dans le ici et maintenant. Alors, c'est important. Il se passe quelque chose d'important ici et maintenant. C'est ce que vous disiez sur on n'est plus que 4 ou 5 autour du feu, il se passe quelque chose d'important. C'est pas seulement de la socialisation, c'est aussi des formes de politisation, mais moi je sais pas si parler d'avenir c'est parler de la mort, parce que sinon qu'est-ce qu'on fait? Dans les multiples paroles de Gilets jaunes, j'en avais retenu, si on ne nous voit plus, il n'y a plus de mouvement. Qu'est-ce qu'on fait quand on perd l'espace-temps qui permet de se manifester et de se reconstituer en citoyen? Et à mon avis, c'est ça la limite de ces mouvements. C'est que, pour moi, c'est des symptômes, et c'est des symptômes d'une crise grave. Alors là où je nuancerais un petit peu par rapport à ce que vous disiez, c'est que, bien sûr, il y a une crise de la démocratie.
Vous parlez de Dominique Régnier, là, oui.
On le sait tous. Mais il me semble que cette crise de la démocratie n'est pas compréhensible sans la crise de l'État social. J'en reviens à ça. Fondamentalement, il y a une remise en cause de ce qui a fait lien, de ce qui a fait citoyenneté dans des formes nouvelles. Et à partir de là, effectivement, on jette tout et à la fois on la revendique, mais on ne se sent plus représenté. Et je pense que ce qui se produit en ce moment, c'est un symptôme, mais ce n'est pas encore une solution. Alors, il faut le symptôme, sans doute, pour construire quelque chose, mais moi, j'en suis là dans mes réflexions.
François Ruffin, à l'instant, et Daniel Tartakovsky faisait allusion, Dominique Régnier parlait de cette éventualité qu'aujourd'hui la rue puisse être un espace qui n'est pas un espace de progrès, de bienveillance, etc., et que ça puisse être un espace de violence, voire de haine. Et hier, on en parlait avec Julia Cagé notamment, de ce livre qui s'appelle « Pourquoi les pauvres votent à droite » de Thomas Frank, qui avait fait ses reportages dans le Kansas pour montrer que beaucoup de gens des classes populaires aujourd'hui, sous Bush, en tout cas à l'époque, militaient contre les droits de succession, militaient, jetaient toute leur énergie pour des mesures qui font que les riches puissent rester riches, etc., etc. Et il y a une spécialiste de sciences politiques américaine, tout à fait à gauche, qui disait que aujourd'hui beaucoup de gens à gauche, et dans les gens qui se réclament des classes populaires et de la politique populaire, sont incapables d'envisager ce qu'elle appelait, donc Wendy Brown, la perspective plus inquiétante d'une orientation subjective anti-égalitaire, asservissante et abjecte dans une partie importante de la population. Est-ce que vous, cette hypothèse-là, cette perspective inquiétante dont parle cette philosophe américaine de gauche radicale, vous la balayez d'un revers de la main ou est-ce que vous la prenez au sérieux ?
Alors, Tom Frank écrit « Pourquoi les pauvres votent à droite et pourquoi les riches votent à gauche ?» Il a fait le deuxième volet aussi, qui est assez intéressant. Moi, je crois, en tout cas, les Gilets jaunes n'ont pas témoigné de ça. Les Gilets jaunes ont pour moi témoigné d'un fond égalitaire fortement ancré dans notre France. Et je veux dire, le slogan, c'était « il faut sur l'injustice fiscale, il faut que les petits payent petits et que les gros payent gros ». Il y a un désir dans ce pays d'égalité. Et au fond, même, je dirais que ce qui en ressort, c'est un sentiment d'une égalité qui est blessée, mais qui est blessée dans la durée. Quand on voit que sur 20 ans, je prends juste une stat, il y en a une autre qui est sortie aujourd'hui, je vous la dirai, mais sur 20 ans, les 500 plus grandes fortunes françaises ont vu leur patrimoine multiplié par 7. Évidemment, quand vous allez avoir des gens qui ont une allocation handicapée et que vous leur demandez si leur allocation a été multipliée par 7, c'est pas exactement le cas. Donc je crois que foncièrement, il y a un sentiment profond d'injustice et que pour moi, les Gilets jaunes ont témoigné. Donc moi, j'ai confiance. Ce qu'il faut, c'est que les élites, si elles veulent être élites, là, je vois que comment il s'appelle mon copain qui a déclaré la guerre des pauvres et la guerre des classes aiguës, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Warren Buffett, il vient de dire on n'est pas assez taxés aux États-Unis. Ben les élites, il faut qu'elles prennent leurs responsabilités, il faut qu'elles demandent à être taxées, fortement taxées, lourdement taxées, et qu'il y ait une justice fiscale dans ce pays. Et voilà, là, on a un fonds égalitaire qui est blessé, mais il peut l'être blessé également sur la question écologique. On sait qu'aujourd'hui, les 10% les plus riches en France émettent à peu près 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Or, une mesure comme la taxe carbone, quand vous tapez au portefeuille, qui est-ce qui va le ressentir le plus fortement ? Ce ne sont pas les 10% les plus riches. Donc on voit bien que même sur le terrain, je dirais, de la justice écologique, il y a la nécessité de prendre en compte un désir d'égalité. C'est le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Et si le cœur se casse la figure et est effrité, c'est toute la société qui se casse la figure avec. Et moi, je crois que on est dans ce temps-là, on est au contraire dans un temps d'un fort désir égalitaire. Maintenant, ça peut être une égalité qui est blessée, dont on ne voit pas qui peut l'incarner, et du coup, ça va se transformer en quoi d'autre. Maintenant, autre chose, c'est que moi, je suis dans mon coin, ça vote à certaines élections Front National à 50%. Et c'est pas en mettant un couvercle par-dessus la marmite, et en refusant de voir ce qu'il y a à l'intérieur, et en laissant ça bouillir, bah oui, de temps en temps, ça pète, et moi, je préfère voir ce qu'il y a dedans, qu'on puisse commencer à tripoter, à en discuter, à machiner avec ça, plutôt qu'à faire comme si tout allait bien dans le pays. Je crois qu'en plaquant un couvercle dessus, en faisant « bon, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bouge », c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Donc voilà, moi, je reviens à la question d'avant de tout à l'heure, mais je crois que ce mouvement a témoigné d'un réveil spirituel. Moi, pendant ma campagne, je disais « mon adversaire, c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence ». Et ces gens que, pendant 20 ans, je me disais « mais quand est-ce qu'ils vont se bouger ?» avec les délocalisations en série et tout ça. Eh ben, à un moment, ça s'est bougé. Moi, dans ce moment-là, je ne peux pas ne pas en être.
Alors justement, par rapport à cette marmite et à ce couvercle que vous appelez à soulever, François Ruffin, est-ce que la façon aussi de répondre à cette impatience, comme vous disiez tout à l'heure, Dominique Régnier, à cette colère sociale, ça passe notamment, sans doute pas seulement, mais par d'autres façons de faire vivre la démocratie, autrement que par ces rendez-vous électoraux qui, certes, sont nombreux, vous le rappeliez au début de cette discussion, mais qui manifestement ne suffisent pas pour qu'il y ait ce lien de confiance essentiel dans le cadre de la démocratie représentative. Est-ce que ça veut dire qu'il faut inventer d'autres formes de délibération, de consultation à côté ? Il y a eu cette revendication du référendum d'initiative citoyenne qui a été très forte, cette revendication dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Il y a ce mouvement vers un référendum d'initiative partagé pour dire si les gens sont d'accord ou pas avec la privatisation d'ADP. En tout cas, est-ce qu'il y a de nouvelles formes à côté de la démocratie représentative à imaginer ?
Alors, il y a sans doute de nouvelles formes. Elles existent pour partie, elles complètent la démocratie électorale. En revanche, moi, je veux dire à quel point on dit des choses fausses lorsque l'on dit qu'il y a une demande, je suis désolé, hein, ça surprend souvent quand on dit ça, mais lorsqu'il y a une demande de démocratie non électorale, ce que font le plus les citoyens en France comme ailleurs, c'est voter. C'est ce qu'ils font le plus. C'est-à-dire quand on les invite, c'est ce qu'ils font le plus. Il y a 47 millions d'électeurs en France, on ne les voit pas dans la rue, ils ont peut-être tort, hein. On ne les voit pas non plus aux réunions, ils ont peut-être tort. On ne les voit pas membres d'un parti politique, pas membres d'un syndicat, c'est possible tout ça, hein. Pas assez abonné à un journal, peut-être aussi, la presse en témoigne.
On ne le dira jamais assez.
Voilà. Mais tout à fait. Il faut prendre quand même ces indications-là au sérieux. Il y a un discours sur des attentes supposées que dans aucune démocratie aujourd'hui, on arrive à documenter par un regain de pratique lorsque ces attentes sont possibilement satisfaites. La démocratie participative, par exemple, elle va concerner, ça va pas vous surprendre, elle va concerner avant tout les mêmes minorités sociales, les diplômés, les surdiplômés, les gens qui ont du temps, les gens qui savent parler, les gens qui peuvent, après le travail, aller dans des réunions, y passer du temps, prendre la parole, avoir le dessus, etc. On a la même configuration en pire. Ce qui écrase le plus ces différences sociales et la puissance du capital social sur les autres, c'est le vote. Et les gens le ressentent bien, puisque c'est ce qu'ils font le plus. Ils iront voter assez massivement, même s'ils peuvent s'abstenir, beaucoup plus massivement en tout cas, ils iront voter, que de participer à des réunions où il faudra débattre et élaborer quelque chose. Même le grand débat, qui a été plutôt une réussite sur le plan de la participation, hein, je me semble que c'était plutôt réussi, ne correspond pas... Non mais...
La foule alors, dit non. Bon, allez, continuez, Dominique Régnier. Bon.
Vous pouvez manifester votre désaccord sans nécessairement huir, encore que si ça vous fait plaisir, vous pouvez huir. C'est bien, si ça vous fait plaisir, madame, je vous soutiens alors à ce moment-là, et moi-même, je peux le faire. Donc, juste sur le fond, le grand débat n'a pas, pour moi, a été une réunion plutôt réussie, je le redis, vous ne partagez pas ce point de vue, mais il n'a pas réuni des quantités significatives de citoyens inscrits. Donc nous avons là une multitude de signes qui ne montrent pas cette appétence-là. C'est une idée. Évidemment, si on fait un sondage sur le RIC, les gens vous diront qu'ils veulent des réunions et qu'ils veulent... On ne peut pas aisément dire non à cela. Mais nous ne le documentons pas, concrètement, dans les démocraties existantes. Même le tirage au sort, il y a un taux très élevé. Dans ma fondation, on a écrit en 2010 une étude sur le tirage au sort, le retour du tirage au sort en politique. 2010, on en faisait la promotion pour certains espaces locaux, etc. Je passe sur les détails. On a un taux de refus de la part des personnes tirées au sort qui peut monter jusqu'à 90%. Et quand vous regardez la sociologie du refus, vous ne serez pas surpris. C'est les gens qui n'ont pas l'habitude, qui ne savent pas bien faire, qui ont peur de ne pas s'en sortir. Et on voit très bien ceux qui acceptent. C'est toujours un peu le même profil. Et donc, là encore, la démocratie électorale ne peut pas être le fin mot de la démocratie, mais ce sont les mécanismes qui écrasent le plus efficacement les inégalités sociales que toutes les autres formes de participation vont au contraire magnifier.
Daniel Tartakovsky, est-ce que ce que décrit Dominique Régnier, en tout cas ce fait de ne pas pouvoir documenter ces demandes, est-ce que sur le terrain... de l'État social, des organisations syndicales, ça c'est quelque chose qu'on peut davantage constater, davantage documenter.
Ben, moi il me semble que ce qui a caractérisé l'État social, ça a été la mise en place de lieux qui étaient des lieux de la connexion entre le mouvement social et la direction du pays. Qu'on pense à la direction des entreprises nationalisées, qu'on pense aux comités d'entreprise, qu'on pense aux organismes de gestion de la sécurité sociale, c'était des lieux d'une action politique qui était contradictoire. N'oublions pas que le programme du CNR, il est signé de la droite nationale, comme on disait alors, hein, c'est le cas pas collaboré, aux communistes, en passant évidemment par De Gaulle. Donc c'est un programme pluriclassiste. Tout le monde n'a pas la même approche, il y a des contradictions. Il n'en demeure pas moins que jusqu'aux années 70 et au début des années 80, il y a eu des lieux qui étaient des lieux de participation, c'est-à-dire de construction de la démocratie sociale ou de défense de la démocratie sociale. Et ça formait des cadres. C'est-à-dire que, quand je disais, la citoyenneté, ça se résumait pas à voter tous les 5 ans ou tous les 7 ans, peu importe, ou même un peu plus. Il y avait des lieux où on agissait. Je m'excuse de vous raconter ma vie, mais il se trouve que j'ai dirigé une entreprise, c'est un joli lapsus.
Très joli lapsus.
Une université pendant 4 ans. Et je me suis posé la question, c'est, bon, j'étais élu, hein, j'étais élu, c'était sup. Qu'est-ce qu'on fait quand on est élu syndical aujourd'hui? Donc, on n'est plus dans l'état social, hein, on est dans le New Public Management et qu'on doit faire appliquer la loi. Comment, bon, mais là, on se pose des vraies questions politiques dans la contradiction et on cherche des alliés politiques dans la contradiction. Et il me semble que il faut qu'on prenne en compte l'ensemble de ces lieux où il y a encore une action possible et inventer de nouveaux lieux pour répondre à cette question de la démocratie qui ne saurait être exclusivement une démocratie politique comprise dans un cadre représentatif.
Alors François Ruffin, vous aussi, vous avez été élu à la tête d'une petite entreprise puisque vous êtes député pour 5 ans, vous l'êtes depuis 2017. Entre 2017 et le moment où vous cesserez, ou peut-être que vous ferez un nouveau mandat, mais en tout cas d'être député, il se sera passé donc 5 années avec la question aussi...
C'est long.
C'est long, et c'est aussi peut-être long d'ailleurs pour les électeurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dire qu'à un moment donné, ils ont besoin que leurs élus soient rappelés, alors si ce n'est rappelé à l'ordre, mais en tout cas rappelés à leurs engagements. Vous, quand vous avez fait campagne, vous vous étiez engagé à dire, s'il y a 25% des inscrits de ma circonscription qui souhaitent que je m'en aille, je m'en irai. Mais comment est-ce qu'on fait, quand on est électeur de votre circonscription, pour vous faire savoir, par exemple, que l'on a envie que vous vous en alliez? Mais ça vaut pour vous, évidemment, mais aussi pour vos collègues. Mais ce que je veux dire, c'est, ouais, comment est-ce qu'on fait pour faire entendre ce genre de choses?
Donc, dans mon premier, au bout d'un an, dans mon premier journal, j'ai mis une feuille que les gens pouvaient remplir et faire remplir auprès de leurs voisins. On a eu une réponse, plus mon fils, quoi, voilà.
Il disait donc, quoi, votre fils? Il disait donc, reste.
Voilà. Bon, maintenant, je crois pas que. Enfin, voilà. C'est pas. Déjà, on voit que pour faire signer le RIP, c'est pas facile. Le référendum d'initiative partagée sur l'aéroport de Paris. Les gens, ils se demandent à quoi sert leur député. Ils ont bien raison de se le demander. À part un pouvoir tribunicien, de pouvoir les incarner, les représenter, prendre leur parole. Mais quand on est député d'opposition, on peut toujours proposer des milliers d'amendements. Il y en aura jamais un seul qui passera. Ou alors, c'est vraiment qu'il y avait qu'une virgule à l'intérieur. Donc, moi je suis démocrate, ça veut dire que je me saisis de tous les outils disponibles. Quand c'est les urnes, c'est les urnes. Quand il n'y a pas les urnes, eh ben on va dans la rue. Quand il y a le référendum d'initiative partagée, je prends le référendum d'initiative partagée. Quand il y a des ronds-points qui sont occupés, je vais sur les ronds-points. Je pense que la démocratie, c'est comme une falaise. Vous savez, c'est la phrase du canard enchaîné. La liberté de la presse ne s'use que si on ne s'en sert pas. La démocratie, elle s'use parce qu'on ne la défend pas. C'est comme une falaise qui est érodée et on laisse l'oligarchie grignoter morceau après morceau parce que on la laisse faire notre indifférence. Donc voilà, moi je suis pour la défendre pied à pied, mais ça passe aussi par les ronds-points, ça passe par les urnes, ça passe par tous les instruments.
Mais est-ce que de ce point de vue-là, on peut pas vous reprocher une sorte de paradoxe qui est que vous voulez défendre la démocratie sur les ronds-points, quand c'est par les urnes, vous la défendez, enfin, vous dites tous les moyens sont bons pour défendre la démocratie, mais à chaque fois qu'on vous interroge, en tout cas récemment, sur le fait que dans votre propre mouvement, en tout cas dans la France insoumise, des gens aujourd'hui se plaignent d'une absence de démocratie interne au mouvement, vous leur répondez que c'est de la tambouille, enfin vous dites aux journalistes vous vous intéressez à la tambouille interne au parti, c'est des luttes de pouvoir, des luttes d'ego, des luttes intestines. Oui. Alors qu'en fait, on pourrait imaginer que pas du tout. D'ailleurs, à l'époque des révolutions, enfin à tous les moments importants de l'histoire sociale, le fait que dans tel ou tel parti, il y ait de la démocratie et qu'on puisse faire entendre les différentes tendances, parfois ça a eu un impact historique très fort. Écoutez, or vous, quand on vous pose la question de ce qui se passe autour de Clémentine Autain ou d'autres, vous dites que c'est de la tambouille.
Vous savez, bien même que je suis extrêmement périphérique au fonctionnement de la France Insoumise. Voilà, c'est tout. Et j'ai été élu avec les étiquettes de la France Insoumise, des Verts, de Ensemble et du Parti Communiste Français, plus une aspiration citoyenne qui faisait qu'il y avait des manifestations.
Vous pourriez avoir à cœur quand même de défendre la démocratie dans votre mouvement.
À ce moment-là, on a uni la rue et les urnes. Dans l'élection elle-même, nous avons uni la rue et les urnes. Voilà la manière dont j'ai pratiqué dans ma campagne et dont je m'efforce. Après, vous savez, le soufflet retombe et ainsi de suite. Donc maintenant, je crois qu'il y a dans ce pays, je voudrais terminer là-dessus, un fort désir d'autre chose. Il y a un désir d'autre chose que produire plus, consommer plus, gagner plus. Il y a une aspiration vraiment à autre chose dans ce pays qui se révèle par toutes les portes possibles.
Merci.
François Ruffin, Daniel Tartakovsky et Dominique Régnier d'avoir participé à cette deuxième journée des rencontres de Pétrarque. Merci, comme chaque jour, aux équipes du rectorat à Montpellier, aux équipes du Festival de Radio France. Les rencontres de Pétrarque, c'est une émission réalisée par Nathalie Salle, préparée par Fanny Richer. À la prise de son, Julien Calvas, Patrick Muller, à la sonorisation, Gilles Manet et Alex Martin. On se retrouve demain à 19h pour évoquer la question du maintien de l'ordre. Nous serons en compagnie de l'ancien préfet Cyril Schott, du journaliste David Dufresne, du président de la CNCDH Jean-Marie Delarue et de Daniel Tartakovsky qui sera à nouveau avec nous. À demain.